stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Pierre Faucillon, ça j'en suis sûr. La réalisation signée Daniel Finot. Une dispute qui change d'horaire mais qui ne change pas de principe, puisqu'elle réunit les meilleures critiques. Pour passer en revue l'actualité culturelle, nous faisons maintenant entendre aussi les opinions et commentaires de celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent peut-être nous faire passer leurs commentaires sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le fil Twitter pendant l'émission La Dispute FC également. À chaque soir, sa discipline, quelques changements par rapport aux 6 premières saisons de La Dispute. Alors comme c'est la semaine de la rentrée, je vais le dire tous les soirs, hein, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que le mardi, parce qu'ils pensent que c'est une émission de cinéma. Bah non, le mardi maintenant, c'est la musique et on va en parler. Le lundi, ça reste le jour du spectacle vivant. Le mercredi reste le jour des arts plastiques. Mais le jeudi maintenant, c'est littérature et bande dessinée. Et vendredi, cinéma et série. Nouveauté également, la présence donc de 3 critiques chaque soir autour de moi pour parler de 3 sujets. Présence donc discrète, importante. Alors en alternance, d'Aïssa Toundoy, de Boris Pino, de Jean-Christophe Brianchon qui surveille le fil Twitter pendant le direct pour donner à entendre les commentaires que vous voudrez bien faire sur cette émission et surtout les sujets dont nous parlons. Et pour cette première émission musicale, les critiques présents, il ne faut pas avoir peur, Sophie Rosemont, merci d'être là. Christophe Comte découvre le livret de Laurent Voulzy.
Exact.
Hein, vous avez eu le disque physique, quelle voilà. Chance. Et Hugo Cassavetti, de retour pour la 27e saison ensemble, je pense, à peu près. À notre affiche, Everything Now d'Arcade Fire, Belém, donc de Laurent Voulzy, et American Dream de LCD Sound System. Quelque chose qui ne change pas, c'est le cadeau avec le jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition sans réserve au Macval à Vitry. Et nous allons ouvrir cette dispute avec une des grosses sorties de l'été, celle de l'album Everything Now, le 5e album d'Arcade Fire, dont l'opus original Funeral en 2004 avait été salué par les critiques du monde entier, obtenant notamment la note de 9,7 sur 10 pour nos camarades de Pitchfork. Plusieurs fées ou sorciers se sont penché sur la production de ce nouvel album. On va évidemment en parler. On va parler de Thomas Bangalter, de Daft Punk, de Geoff Barrow, de Portishead et de Steve Mackie de Pulp. Mais avant tout cela, on va écouter en guise d'extrait le morceau Good God Damn. You wanna get messed up when the times get rough. Put your favorite record on, baby. I fill the bathtub up. You wanna say goodbye to your oldest friends with the good goddamn, with the good goddamn. Lay out your clothes. It's time to go. It's always dark as fourth dawn. The sun never shows. You could say goodbye to your oldest friends. Maybe there's a good Eh bien voilà, Arcade Fire, cet extrait de l'album, qui est sorti lui au mi-temps de l'été. Christophe Comte, il vous a accompagné cet album que...
Plutôt.
Fan d'Arcade Fire, alors plutôt, Arcade Fire, oui. Rédac chef des Un Rock qui sort demain, donc faisant un peu de publicité.
Nouvelle formule.
Nouvelle formule.
Et donc d'où la présence de Arcade Fire en couverture. Moi, très honnêtement, alors évidemment comme c'est un disque qui est sorti... pendant l'été, on a entendu, lu, vu plein de commentaires plutôt durs, hein, on va dire. Vous parliez de Pitchfork tout à l'heure, là, ils ont été beaucoup plus sévères sur cet album-là. C'est un peu normal, parce qu'on va dire que quand un groupe comme ça, qui a cette importance, cette influence, sort un nouvel album, qui, on va dire, est un petit peu différent de ce qu'ils ont pu faire précédemment, un peu moins rigoriste, un peu moins dans la ligne du parti. C'est vrai qu'ils prêtent le flanc à un truc, voilà, un retour de bâton, comme on dit. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'aime bien cet album, mais un peu comme un album un peu un guilty pleasure, on va dire. C'est-à-dire que...
Un plaisir coupable. Voilà. Je traduis directement du Christophe Comte au français.
Un plaisir coupable de rien, déjà, mais malgré tout, bon, le single Everything Now a quand même une très forte imprégnation de ABBA, qui n'est pas un groupe, encore une fois, dans la ligne du parti, on va dire, même si on les a réhabilités depuis les années 70. Mais il y a quelque chose chez eux de l'ordre de l'amusement. Alors après, ça a sans doute été assez laborieux comme élaboration, cet album qui a mis quand même pas mal d'années à voir le jour, mais avec différents ateliers, différents producteurs, ils ont voulu, je pense, aller un peu vers des choses vers lesquelles ils n'étaient pas allés. Moi, j'étais un peu tiède, et d'ailleurs, on en avait parlé ici, à propos de Reflector, je trouvais le morceau fantastique, et après l'album qui traînait un peu la patte, et là, je trouve qu'il y a plein de morceaux assez réjouissants, mais qu'on déguste un peu comme des dragées un peu sucrées. D'autres comme celui qu'on vient d'entendre, qui est pas mon préféré, mais qui sont plus dans le dur, on va dire. Mais dans l'ensemble, je trouve pas que ce disque mérite en tout cas tout ce qu'il a pris depuis qu'il est sorti. Peut-être que Arcade Fire arrive à un stade j'emploie ce mot à dessein, un stade, parce que c'est quand même aujourd'hui les endroits où ils se produisent le plus souvent, où forcément ils deviennent une sorte de nouveau U2, hein, c'est ce qu'on lit beaucoup. Moi, je suis désolé, mais quand j'écoute un album de U2, j'arrive difficilement à la troisième plage. Là, je l'ai réécouté régulièrement plusieurs fois. Mmh. Et même, effectivement, c'est un album que j'ai beaucoup écouté l'été. Mmh. Je trouvais
assez agréable. Il gagne à être écouté, réécouté. Oui, oui. Il imprègne
avec,
bien.
Voilà, avec de très bonnes chansons et peut-être dans la production quelque chose de plus clinquant, de plus immédiat, qui fait qu'effectivement, les fans de Funeral, de Neon Bible, des albums de Suburbs, qui est sans doute leur meilleur album, voilà, trouve un peu trop easy listening.
Ah bon, on va faire plein de traductions du conte au français. Non,
mais ça, c'est presque des mots français, ça, easy listening.
On prendra le dictionnaire de l'Académie pour les prochaines émissions avec vous, Christophe.
Vous voulez dire que quand on est en direct, vous ne pouvez pas couper tout ça, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On ne peut pas couper. On n'a jamais coupé, quoi que ce soit. Sophie, heureusement, vous avez écouté cet album, vous, pendant ce long mois d'août?
Bah, je suis venue sans l'écouter, comme ça.
Longtemps. Non, mais. Bien sûr, oui, je l'ai accompagné. Parce qu'on écoute pour le travail, parce que voilà, c'est au sommaire, mais est-ce qu'on écoute aussi avec du plaisir? Pour une fois qu'on a un peu de temps par rapport à la date de sortie, c'est un cas un peu particulier.
Moi, ces paroles me dépriment un peu trop pour l'emporter en vacances, parce que c'est une des qualités de cet album, c'est le contraste hein, entre les textes et la musique. C'est des textes, bon, ça a toujours été très sombre, hein, Arcade Fire, voire clairement dépressif. Là, c'est cynique. Voilà, là, on est dans la critique, de la surconsommation, du manque de temps, de la dictature des corps. Y a des moments où ça devient vraiment triste. Et quelque part, ça m'a pas dérangé de l'écouter voilà à Paris, mais en vacances non, j'ai pas envie d'entendre parler de suicide ou de j'aimerais rester un enfant toute ma vie ou les supermarchés c'est très mal. Non, ça c'est pas possible. En revanche, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet album, c'est le glissement entre la fête qui est vraiment dans la première partie du disque et la gueule de bois de la fin que je préfère. Après d'ailleurs un milieu que je trouve assez raté, une espèce de truc moitié caribéen, une espèce de rock assez excité d'un Finding Content dont les paroles d'ailleurs sont assez limites. Mais ce contraste, ce glissement, on parlait de la production tout à l'heure, alors on va souligner quand même le rôle de Marcus Dravs qui a bossé avec Björk, Florence and the Machine, Coldplay sur les albums les plus connus et qui donne, je pense, ce côté un peu rutilant à la production. Donc oui, groupe de stade, Arcade Fire n'est plus du tout le groupe de Funeral et quelque part, heureusement. Après, derrière les sourires de façade, les références à ABBA, qui est un groupe que j'aime beaucoup et que j'affectionne beaucoup, il y a quand même quelque chose d'assez, d'encore assez rugueux, d'assez acerbe, qui se dessine derrière. Mais qui se dessine, parce que pour moi, le défaut de l'album, parce que bon, il en a évidemment un petit nombre, c'est le manque peut-être de corps, on parle de ligne de partie, mais là, je pense qu'il y a juste un petit problème de consistance. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus présent, plus palpable, plus fort. Butler est là beaucoup, enfin Win Butler, Régine Chassagne moins, d'ailleurs heureusement parce que sa voix est un peu pénible, elle ne chante que sur un morceau, mais il y a quelque chose du côté collectif de l'album, du groupe d'Arcade Fire depuis le début, ce côté justement ils étaient tous ensemble, d'un espèce d'élan collectif qu'on sent moins sur celui-ci.
Hugo Cassavetti, pour ce premier tour de table.
Beaucoup de choses, je note tout ce que j'entends. Déjà, il y a un mot que vient d'employer Sophie, qui n'est pas inintéressant. Elle utilise tristesse, je suis d'accord, et ça pourquoi pas, mais cynique, et c'est un peu mon problème avec cet album, c'est le problème avec Arcade Fire, qui est un groupe. Et pour revenir juste à ce que... Voilà, par exemple, le morceau qu'on vient d'écouter, je trouve, c'est un bon album, c'est un bon morceau de pulp, en fait. Et c'est un peu le problème de ce disque, c'est, on dirait, une compile des années 80 qu'ils ont fait, c'est l'exercice qu'ils ont imposé de faire un peu d'OMD, un peu de pulp, un peu d'ABBA, un peu de truc.
Et je trouve l'identité.
On en parlera peut-être plus pour James Murphy et peut-être voilà tout à l'heure pour LCD. Talking Head, ça me paraît même pas si évident, parce que c'est plus léger, c'est plus 80s.
Pet Shop Boys,
Pet Shop Boys sur Signs of Life, mais voilà, sauf que voilà, et c'est un bon exemple, parce que Pet Shop Boys est un groupe, on en a déjà parlé ici, que moi j'aime beaucoup, qui arrive à tenir une ligne assez droite tout en évoluant, en mariant parfaitement ce mélange de mélancolie, de désespérance, avec une musique extrêmement festive, mais avec une identité Pet Shop Boys, cette voix et tout, qui est... entière à eux et sans excès, sans surcommunication, sans base. Ils suivent leur truc depuis des années. Si on prend Pet Shop Boys, on a parlé de U2 et c'est vrai que c'est pas tellement pour le son qu'on les compare à U2. C'est que je pense que plus ça va, et ça fait un moment, j'aimais bien Funeral, et alors moi j'aimais beaucoup Reflector. Bizarrement, c'est peut-être le groupe, le disque que j'ai le plus écouté. Le premier album de Reflecteurs, je trouve que justement, le premier morceau est un modèle et je trouve assez fort, c'est que rien n'est à la hauteur, mais ça tient, ça tient. Et le deuxième album, ce qui est drôle de Reflecteurs, que j'écoute beaucoup moins et j'aime moins, est exactement le même phénomène que Sophie vient de décrire. C'est un peu la gueule de bois après, dans le parcours, mais étalé. Sauf que c'est un disque qui se tient à un son qui tient pendant tout le disque de une identité Arcade Fire. Là, je l'ai pas du tout. J'ai un groupe très malin, très doué, qui, d'ailleurs, c'est drôle que U2 à un moment reprenait Dancing Queen sur scène. C'est comme si c'est la référence dès qu'on veut essayer de jouer. C'est l'espèce de référence de, oui, on n'est qu'un groupe de pop, mais en même temps, on est tellement plus intelligent. On dénonce tout ce que c'est, et voilà, tout ce qu'on a toujours détesté chez Bono, mais ouvertement, et leur disque, on en pense qu'on veut, c'est se jouer tout le temps sur ce numéro, d'utiliser toutes les ficelles du showbiz, de devenir des superstars, des managements, du buzz, de l'hype et tout, tout en prétendant que, oui, mais tout ça, en fait, c'est en fait une mise en abîme de ça, c'est pour le dénoncer, mais on joue toutes ces règles-là. Mmh. Et c'est ça qui m'a toujours déplu assez vite chez Arcade Fire, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu, je trouve pas très, ouais, à la limite pas très honnête, tout bêtement. Alors que c'est un groupe qui se vend comme étant le summum de l'honnêteté, de l'incrédulité, et ça me gêne de plus en plus. Alors, ils se disent, je trouve très inégal. Sur la question, est-ce que ça m'a accompagné tout l'été? Il y a deux, trois morceaux que j'aime bien, mais pour les références que ça me renvoie, je trouve qu'il y a vraiment une chute au milieu. Il est très inégal, et il s'écoute comme, ouais, c'est drôle parce que Christophe parlait de Guilty Pleasure, je sais que je l'ai chroniqué, en faisant allusion à un disque que j'aime plutôt bien, qui est Discovery d'Electric Light Orchestra. Sauf qu'on ne prêtait aucune valeur profonde, intense. C'était juste un parfait disque de pop, au contraire de presque clinique Discovery. Ça, c'est la même chose, mais la version, oui, mais vous comprenez, en fait, on est en train d'analyser, ça, prendre du recul, et c'est
quand
assez...
Vous dites ça, Hugo Cassavetti, ouais. Parce que moi, j'entends et je conçois que vous puissiez le penser, mais quand j'écoute le disque sans connaître les membres d'Arcade Fire, j'entends pas ça. Est-ce que c'est parce que vous avez une connaissance aussi personnelle des interviews avec ces musiciens et vous sentez effectivement, comme moi ça a pu m'arriver mille fois avec des écrivains, des cinéastes, jusqu'à... On se dit, il y a un discours et il y a...
Oui, mais Arnaud, je crois que c'est quelque chose qu'on a souvent évoqué ici. C'est que si on parle juste de pop musique, juste on se dit, bah, c'est de la pop, est-ce que c'est bien ou pas? Finalement, ce débat, le summum de ça, ça a toujours été Carla Bruni. Oui, mais est-ce que la musique est bien? Sauf qu'on ne peut pas écouter en faisant abstraction de ça. Y a l'identité, la personnalité compte à un moment chez des groupes qui prétendent avoir un discours, et c'est tout le problème qu'on a avec U2. Leur album, le dernier, je veux pas déraper trop là-dessus, qu'ils ont balancé à 10 millions de gens, est probablement le disque de U2, qu'on l'aime ou pas, qui a été le moins écouté. Mmh. Et ils sont pris au piège de ça. Et ça fait, sur le précédent, Arcade Fire, alors bien sûr, il explique partout que, oui, mais c'est pour être écouté, que si on faisait que de la musique, personne nous écouterait, donc il faut utiliser les moyens modernes, ces moyens qu'on déteste pour exister. Il y a un moment, ça m'épuise. Il y a beaucoup d'autres artistes qu'on respecte. Peut-être qu'ils ont une audience un tout petit peu moins grande, mais qui est quand même assez grande, de Pete Gervais à peut-être même James Murphy d'LCD Sound System, qui se passe de ça. Donc le côté un peu... je sais pas, il y a quelque chose qui m'a...
C'est comme Sophie, finalement, il y a le hiatus entre le propos que ça voudrait tenir et en fait les moyens pour y parvenir.
C'est un groupe très talentueux, tout ce talent au service de faire des pastiches brillants de plein d'autres groupes.
Il n'y a pas que du pastiche.
Je trouve sur ce disque-là, oui. C'est vrai. Il n'y a pas une identité comme sur Funeral.
Moi, je me suis surpris à l'aimer de plus en plus au fur et à mesure des écoutes, quand même.
Et pour finir, quand on dit que sur scène c'est extraordinaire, j'ai toujours été un peu gêné par Arcade Fire, où c'était parce qu'ils sortaient des gongs, des trucs et des tablas et des tout. Je me disais, c'est tous les plans pourris qu'on avait dans les années 70. Je me souviens, ils arrivaient avec un gong, on disait, c'est incroyable. Il y a 30 ans, quand Emerson, Paycon, Leib, Palmer disaient, oui, mais ils ont un gong. On disait, oui, et tout le monde se foutait de leur gueule.
Est-ce que Gong avait un gong?
Non, même non, pas. Mais juste parce que le mec court, et à un moment, il tape une fois sur le... Oh, c'est incroyable.
Alors moi, sur scène, Christophe Comte, les fois où j'ai vu Arcade Fire, ça remonte quand même pas... Ouais. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve qu'il y a une effervescence qui s'installe dès la première minute.
Mais quand ils font la Kumbala pendant 10 minutes, c'est insupportable.
Mais c'est le front plus de cet album, au moins. Non. Et je pense que cet album, en live, devrait vraiment donner quelque chose d'assez fort et assez entraînant.
Mais on n'a pas eu l'occasion de les voir. Ils ont
pas encore.
Pour finir, j'ai juste lu des interviews de Win Butler. Là, c'était juste faire de la promo pour Tidal. Je me dis, oui, d'accord.
Ouais, alors ça, par contre, c'est un peu gênant.
Ça en dit long aussi.
C'est plus que de la promo, c'est de la propagande. Et là,
sur la plateforme
Tidal,
c'est pas anodin.
Et puis le cynisme, là, pour le coup, de dire, en fait, on a signé ce deal avec Tidal pour pouvoir discuter avec des vrais musiciens qui, avec qui on partage, alors à savoir Beyoncé, Jay-Z et tout ça, parce que en gros la musique populaire aujourd'hui c'est ça, et il faut qu'on, je trouve que là pour le coup je pense qu'il y a un énorme deal financier derrière tout ça qui est masqué par des paroles totalement surréalistes et en plus très cyniques, et voilà, bon, ça pour le coup oui je suis d'accord, c'est pas la partie la plus intéressante,
mais en même temps, pour venir, écoutez le disque à longueur, je l'ai refait encore deux trois fois pour venir, il y a deux trois morceaux, les Everything Now, Signs of Life et tout, pour des raisons. Et il y a quand même des trucs, le Infinite Content, c'est juste ça. Et le pire, c'est Chemistry, on dirait de l'Europop pourri des années 80.
Parce que je trouve bizarre, c'est la présence et absence finalement de Thomas Bangalter, qui aurait dû amener à ce disque ce qu'il a fait avec The Weeknd, ce que Daft Punk a fait avec The Weeknd, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on écoute ça 30 secondes, on l'a dans la tête pendant 15 jours, c'est quand même imparable. Et la science de Daft Punk pour faire ce genre de single, voilà, qu'on écoute même à son corps défendant, là on n'a pas ça sur le disque. Je pense que sa présence a été plus fantomatique, plus une présence de conseil, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'interview des In Rock, qui les a rassurés, qui leur a donné comme ça des pistes autre que de la musique, et qu'ils ont enregistré au studio Gang, pour tout dire, à Paris. Studio connu pour avoir hébergé notamment Jean-Jacques Goldman pendant des années. Voilà.
Je sais plus ce qu'il est tout. Voilà. Quand même une toute petite bouffée pour finir sur ce Everything Now dont on a quand même beaucoup parlé. Quand même une petite bouffée estivale encore.
Oui, quand je disais qu'il n'y avait pas de titre qui restait dans la tête,
celui-là
qui vrille
le cerveau. Évidemment. C'est un verre de musique. Everything Now d'Arcade Fire est sorti chez Columbia. À suivre dans la dispute, Laurent Voulzy et LCD, je le dis à la française, un sound system. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à réagir en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Mais cette année encore, nous allons continuer les grands écarts, puisque nous passons effectivement de Arcade Fire à Laurent Voulzy, avec ce nouveau disque Belém qui sera dans les bacs ce vendredi, ça vous fait rire, Hugo Cassavetti. Ce n'est que le 9e album de Laurent Voulzy, jamais j'aurais cru une chose pareille. Il a depuis 35 ans dans le paysage, j'ai l'impression qu'il avait sorti 35 disques. Mais non, c'est le 9e. Non, mais c'est une force. Vous rigolez déjà, Sophie Rosebon. Je trouve ça fort d'être aussi présent dans le paysage en ayant signé à ce jour, jusqu'à vendredi, seulement 8 albums, c'est le 9e. C'est la réalisation de son fantasme, ce qui nous fait déjà plaisir pour lui, de faire un disque brésilien, c'est ce qu'il explique en tout cas. Au cœur de l'album, un morceau en triptyque, Spirit of Samba, sur le modèle, on va le comprendre, de Rock Collection. C'est le premier volet que nous sommes autorisés à diffuser ce soir, l'album n'étant pas encore sorti, c'est extrêmement dommage. D'autres morceaux, dont on pourra parler, me paraissaient plus intéressants, mais soit, partons sur ce premier volet de Spirit of Samba.
C'est bien. Abattu
Voilà pour ce Spirit of Samba. Enfin, l'intégralité fait 19 minutes. Sophie Rosemonde voulait l'écouter intégralement, mais comme on n'a pas le droit, Sophie.
À la fin, il fait le petit bonhomme en mousse en brésilien, en samba.
Bon.
L'écoute.
Alors, Sophie Rosemonde, Laurent Voulzy, est-ce que vous l'avez un peu dans votre cœur?
Oui.
Grenadine.
Oui, oui. Oui, je l'ai dans mon cœur, Grenadine. Et c'est évidemment un artiste qui a un conscience, enfin, sympathie énorme et que j'admire et que je respecte, et donc j'espère que personne ne m'en voudra pour ce que je vais dire, mais évidemment cet album aurait dû être, je pense, un maxi de 5-6 titres, parce qu'en fait ça commence assez bien avec des jolies ballades. Les trois premiers titres ont été enregistrés sur la plage à Rio, parce que cet album est un hommage, une déclaration d'amour à la musique brésilienne et particulièrement à la samba et à la bossa nova. Et ensuite, on tombe dans une reprise façon brésilienne de Song of You. Et ce triptyque, qui est quand même un énorme problème, qui dure en tout entre 18 et 20 minutes, dont on a l'impression que ça ne va jamais se terminer. Donc, une espèce de reddit de Rock Collection, mais façon Brésil. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense que oui, les trois premières chansons et la dernière, qui est aussi une jolie ballade, très gracieuse. Souchon a écrit certains textes, comme à son habitude, aurait amplement suffi. Ou alors fallait attendre. Mais j'adhère pas vraiment à ce concept de déclaration d'amour. Je trouve ça très dispensable. Donc, ça commence sur le bruit des vagues, ça se termine sur le bruit des vagues, ça détend. On se croirait encore en vacances. La voix est intacte. Il y a toujours des jolies mélodies, mais moi, je ne vais pas spécialement le réécouter, en l'occurrence. Sauf peut-être un jour d'hiver où j'aurai très très froid avec un grog, avec un gros rhume. Oui, peut-être que j'écouterai l'hommage de Laurent Voulzy à la musique brésilienne,
qui fait avec des super musiciens. Si vous avez un copain qui joue de la guitare, ça peut suffire aussi.
Oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, moi je préfère encore qu'on me joue à la guitare Elliott Smith. pas Spirit of Samba 1, 2 et 3.
Hugo Cassavetti.
Comme beaucoup de ses modèles, je pense que c'est admirablement soporifique, quoi. Mais je pense que c'est un disque sincère, honnête, comme un peu tout ce qu'il fait. Déjà, il est très bien coiffé. Non, mais il faut préciser, sur Laurent Voulzy, on est celui où on trouve des qualités.
Je sais pas, on a eu un... Je n'ai eu qu'un lien immatériel.
Le problème de Laurent Voulzy, c'est que c'est toujours ça. Il est, c'est un, voilà, un musicien
de dos,
en père.
Hein. Il est
un passionné
de...
Christophe
Comte qu'elle disque.
Il est de face à un
C'est un passionné
moment.
De pop anglo-saxonne. Oui. De chansons, c'est un très bon musicien, c'est un mélodiste hors pair qui fait ces disques-là un peu indolents depuis maintenant 40 ans. Parfois, il y a des choses assez superbes, d'autres, c'est jamais mauvais, mais moi, ça m'a toujours laissé assez indifférent, à part quelques morceaux comme I Want You, des choses comme ça, quelques singles. Et le problème, c'est que, ouais, c'est toujours, il est intéressant parce que c'est méticuleusement paresseux toujours. L'impression que, voilà, il fait très peu de disques. Ah bon, c'est que le 9e ou 15 ans, l'impression que c'est des trucs qu'il fait comme ça en se levant, sauf qu'on découvre toujours qu'il a passé, parfois 9 ans sur un disque. Là, je sais pas combien de temps, parce qu'il a quand même fait, c'est comme David Crosby, son rythme s'accélère. Il a fait quand même un album avec Souchon, plus un autre. Mais je trouve ça quand même mieux et sûrement plus sincère, pas plus sincère, mais, plus réussi, à voir, sauf que ça me parle pas beaucoup, qu'il y a 10-15 ans, quand il avait fait ce disque, un peu sans intérêt, juste de reprises, un peu fade, de tubes des années 60, qui a cartonné, où c'était juste des reprises, pareil, un peu molles et indolentes à sa manière. Ouais, avec toute sa passion. Le problème, c'est que la passion chez Voulzy, c'est un peu là là là, je suis passionné.
Bon, très belle imitation du Joker Sevelsi. Christophe Comte, nous sommes moins bien coiffés, vous et moi, que Voulzy.
On va dire ça. Alors, écoutez, moi, j'ai l'impression que Laurent Voulzy, en fait, en faisant Rock Collection au tout début, son premier hit, qui reprenait comme ça en abîme des morceaux des Who, des Stones, etc., a finalement fait une déclaration de faiblesse en disant je serai toujours quelqu'un qui va recycler. Et au moins, je cite mes sources. D'ailleurs, il s'est pris un procès, il n'a rien gagné avec ce truc.
Ah oui, c'est vrai?
Oui, ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il le refait maintenant, parce qu'il est un peu maso. parce qu'il l'a refait une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps.
Ouais,
il y a 4-5 ans. Il a refait un Rock Collection, juste un maxi, en réactualisant le truc. Et on a l'impression qu'il va remettre sur l'établi ce truc-là depuis toujours, qui est un concept de la chanson dans la chanson qui commente la chanson, donc l'époque. Enfin voilà. Alors ça avait un côté très sympathique sur Rock Collection. Là, ça l'est un peu moins parce qu'on est un peu indifférent à ces histoires de samba. Alors il a fait attention quand même parce qu'il a repris des morceaux qui avaient déjà été repris par des Français. Il a pris un morceau repris par Fugain, un morceau repris par Vassilou, qui sont des classiques brésiliens, mais qu'on connaît déjà. Il est malin. Ils sont déjà dans l'oreille des gens. C'est pas, vous le dites, c'est pas non plus quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a un gros poil dans la main, à peu près gros comme un baobab qu'on doit trouver sans doute dans la forêt amazonienne. Et donc, il est là.
Ami botaniste, écrivez-nous.
Oui, je sais pas.
Pas sûr, mais bon.
Mais peu importe. Mais en tout cas, on trouve des armes. Donc, ça ressemble un peu à ça. Et il est toujours dans un espèce de registre comme ça où il va effectivement faire. Il y avait un album qui s'appelait Avril, je crois, où il faisait un morceau où on entendait, le morceau s'appelait Marie Comte, et on entendait un bout des Kings à l'intérieur de ce morceau. Et c'était évident, c'était une citation évidente. Alors, il est fan des Kings, très bien. Le problème, c'est qu'il joue ça avec des requins de studio qui n'y comprennent rien. À l'arrivée, ça sonne... Alors, je vais en réemployer ce mot, easy listening. Voilà, ça glisse, quoi. Et moi, je pense qu'au contraire, vous le dites, il est passé un peu à côté d'une carrière d'un grand songwriter pop à la, Art Garfunkel, on va dire, ou Paul Simon, enfin, qui sont sans doute ses modèles. Il aurait pu faire quelque chose en français qui soit de cet ordre-là. Il l'a fait de manière très épisodique sur certains morceaux. Mais là, on est vraiment dans une espèce de recyclage bizarre parce qu'il reprend lui-même ses propres morceaux.
Ah ouais, j'ai trouvé ça, c'était le plus étonnant. Quand c'est que le 9e album et qu'on fait une reprise de soi-même, donc voilà, Mini A Song For You, même si c'est en duo.
Il dit que ce morceau était dédié, il avait écrit pour la vie, et c'est pour ça. Enfin, et le premier, il a écrit à 13 ans.
Le faire en live suffirait amplement dans ce cas-là.
Le morceau Belém, qui est sans doute le plus beau morceau de l'album, c'est un morceau qu'il a écrit quand il avait 17 ans. Enfin,
il est près de 70, donc il est en train de
reconstituer, de recoudre comme ça sa propre histoire. Et en même temps, est-ce qu'on est vraiment intéressé par l'histoire de Laurent Voulzy, qui est un garçon très sympathique, très timide, comme le dit le premier morceau, même s'il parle d'une fille, mais enfin, je pense que c'est un peu un autoportrait. C'est quelqu'un qui fait pas de bruit, qui fait pas de mauvais bruit non plus. On peut dire qu'on n'a pas grand chose à lui reprocher, contrairement à d'autres. Mais est-ce qu'on aime vraiment ça? Moi, j'adorerais aimer un album de Woolsey, de la première à la dernière chanson, parce que je pense que c'est quelqu'un dans le paysage de la chanson française.
Mais il fera un jour une compile de ses meilleures chansons qui fera l'album que vous attendez.
Mais c'est dommage, parce qu'on est passé peut-être à côté de quelqu'un qui aurait pu marquer la chanson française et qui va la marquer, certes, bien sûr, mais pas, à mon sens, pour des bonnes raisons. Mais uniquement parce que pour ces histoires de recyclage... Et voilà, il y a quelques morceaux dans la discographie de Woolsey qui auraient mérité pour le coup beaucoup plus de lumière.
Alors c'est vrai que le Brésil, il a quand même attiré beaucoup de musiciens et musiciennes de par le monde. Boris Pinault au travail, hein. Elsa Mars nous écrit un petit tweet pour faire partager.
Oui, Elsa C qui mentionne le dernier album de Pauline Croze et qui parle pour le coup d'une véritable immersion brésilienne comparée à un Laurent Voulzy qui ne proposerait que un pot-pourri commercial de standard brésilien. Là,
et elle préfère.
Mais même Barbara Carlotti d'ailleurs avait fait un très bel album sur le Brésil. L'amour, les vagues, le titre ne me revient pas, il date de quelques années, un très bel album sur Rio et qui était autrement plus inventif que
et là, ça. Françoise Hardy, Isabelle Aubray a fait un album brésilien absolument magnifique en 71 et beaucoup de musiciens français, alors on va pas reciter Pierre Barou, mais également Pierre Barou, qui a un peu importé la samba, Henri Salvador quand même, qui prétend même avoir inventé la bossa nova, les soirs de cuite, il raconte ça, enfin il racontait. On peut évidemment citer Georges Moustaki, mais aussi des gens qui ont fait de la musique brésilienne qui n'étaient pas des adaptations, quelqu'un comme Nino Ferrer. La Rua Madureira, c'est un morceau
sublimissime.
Voilà, donc
passer, je pleure à chaque fois que je l'écoute.
Passer après tous ces gens-là, et même Gainsbourg, hein, Gainsbourg a fait beaucoup de samba, de bossa nova au début de sa carrière, parce que c'était à la mode. Quand on écoute ça aujourd'hui, déjà les arrangements d'Alain Goraguer, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on entend sur l'album de Woolsey. Donc quand on passe après toute cette histoire-là, c'est un peu compliqué.
Bon, avis.
Non, mais
juste pour
finir, le seul élément qu'on a du mal à en dire du mal, c'est qu'il se fait plaisir, c'est tout. Ce qui n'est pas antipathique, au fond.
D'accord.
Ça, c'est son luxe, on a l'impression qu'il ne cherche pas spécialement à coller. Il réalise son petit truc, il est content.
Il y a plein de gens, je pense, qui seront contents d'écouter.
Oui, mais au moins ça,
pour finir sur une note
ça
positive.
Ça va cartonner, je pense.
Ouais.
Je pense que ça va se vendre comme des petits pains, parce que oui, c'est exactement ce dont les gens ont besoin, c'est un doudou.
Un doudou qui sort le 1er septembre, lui aussi chez Columbia, Belém de Laurent Voulzy.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième album de cette première dispute musicale de la saison, c'est celui de LCD Sound System, qui sort d'ailleurs lui aussi vendredi. Il s'intitule American Dream, et c'est le titre du morceau que vous avez proposé de partager avec nos auditeurs.
Quatrième album pour le groupe américain en 15 années d'existence, une éclipse de près de 5 ans entre 2011 et 2015. Et comme il est 19h48, on commence par la synthèse d'Hugo Cassavetti avant de faire le tour de table.
Là, une synthèse.
c'est pour ça qu'on commence par là.
Fabienne synthèse.
Adieu.
En même temps, si vous voulez faire coucou, c'est sur France Inter.
Alors, on peut juste préciser que ce morceau qui est assez super, mais non plus, il y a des morceaux avec des tempos un peu plus nerveux. Non, parce qu'on peut penser que c'est un album complètement.
Funérole.
En tout cas, je trouve ça très intéressant de faire Arcade Fire et James Murphy dans la même émission, parce qu'il y a comme un triangle et ils sont reliés à quelque chose en commun chez eux.
C'est et Laurent Voulzy.
Bowie qui les défendait. Beaucoup Arcade Fire. Ouais. Murphy, dont c'est l'idole absolue au-delà de tous ces groupes de New Wave qui vont de New Order à Ultravox à Human League, tous ceux qu'on peut citer, ou même Suicide en écoutant ces disques. Et c'est drôle, on citait tout à l'heure, James Murphy a quand même produit le dernier album d'Arcade Fire. Donc, bon, que tout ça est très lié. Et pourtant, j'aurais envie de dire qu'ils sont un peu dans le même groupe, mais deux opposés.
Si vous avez envie de le dire, dites-le.
Voilà. Oui, il faut peu dire ça.
Non, mais je vous en prie.
Si on prenait Bowie, c'est comme si Arcade Fire incarnait tout l'aspect légèrement roublard de Bowie et James Murphy tout l'aspect, je pense, de quelque chose d'assez...
Sophie Rosemont fait la moue pour l'instant.
Parce que James Murphy ne survend pas, vous voyez sa bouille, il est toujours... Alors on pourrait dire que c'est un look et tout, il a toujours l'air coiffé comme un dessous de bras, mal rasé.
Truc sur les coiffures, vous, ce soir.
Toujours, moi. Mais c'est capital.
Capillaire
et capital, bien sûr. Et c'est quelqu'un, effectivement, ce groupe, on a l'impression, non pas que ça le dépasse, mais qu'en tout cas, on n'a jamais l'impression qu'il a eu un plan comme ça de domination mondiale avec ce groupe. C'est un passionné. Bizarrement, je l'ai rapproché de quelqu'un tout au début, mais pour qui j'ai pas de passion, c'est Moby. C'est-à-dire des Américains de New York qui ont cette culture, qui ont grandi avec une fascination pour le punk, bizarrement plutôt anglais. C'est-à-dire l'autre idole à la base de James Murphy, c'est Marquis Smith de The Fall. C'est quand même intéressant.
Ils s'entendaient beaucoup sur Losing My Edge.
Oui, qui viennent de cette culture-là et pourtant ne se contentent pas juste de refaire un succès d'année de punk 20 ans plus tard, se disent comment appliquer cette passion pour cette musique-là, la retrouver, la rénover, mais dans cette culture Brooklyn, début 2000, des clubs, et simplement en se lâchant. C'est pas a priori un grand chanteur, et pourtant il le devient petit à petit, mais en essayant, au contraire de je trouve, voilà, je les compare parce qu'on en parle des deux en même temps, et pourquoi ce disque, on me demande est-ce que j'écoute Arcade Fire ou pas, pourquoi ce disque me touche, et c'est ça l'essentiel pour moi. Parce que je pense qu'il se lâche un peu juste sur ses émotions, plutôt que de donner des grandes théories un peu nébuleuses ou au contraire extrêmement prétentieuses. Je pense qu'il n'est pas dans le contrôle. Là où il a un peu un contrôle, il se laisse aller à sa passion. On pourrait dire que ce disque n'invente pas grand-chose par rapport au précédent LCD Sound System. Il le fait, il poursuit un peu ses mêmes recettes, c'est un peu les mêmes sons, les mêmes références. On retrouve de tout, pas mal de Talking Heads aussi par moments, beaucoup plus que sur Arcade Fire. Et ce chant, il chante de plus en plus, il va un peu plus vers... c'est jamais très très limpide ce qu'il écrit, parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un d'assez très bavard mais assez pudique ou qui aime pas beaucoup parler de lui, et donc entre les mots on écoute et on sent, il y a une ambiance comme ça qui transporte dans cet univers de ce type James Murphy, qui reste à la fois est devenu une star assez mondiale. Ils sont reformés, c'était le groupe vedette à We Love Green, et en même temps on le connaît pas beaucoup parce qu'on est juste pris dans l'univers de ce groupe assez à la fois crépusculaire et en même temps qui donne envie de, moins sur ce morceau, mais de danser, de se laisser porter.
On peut danser sur ce morceau.
Qui est quand même une des choses qui attire vers la musique, que plus se dire « Oh la belle bleue, c'est bien », comme chez d'autres. Quoi. Ouais.
Oh la belle tout en bleu, Sophie Rosemont. Vous n'étiez pas d'accord au début avec les propos d'Hugo et vous avez opiné au fur et à mesure.
Le mot roublard et Bowie à côté, c'était un petit peu trop difficile pour moi, parce que comme James Murphy, j'ai une grande affection pour Bowie. Un autre pont commun entre le disque d'Arcade Fire et celui d'LCD Sound System, c'est effectivement le contraste entre les paroles qui sont tristes, en revanche vraiment à pleurer chez James Murphy, et les morceaux plus up-tempo de ce disque. Moi je trouve que c'est un album assez formidable, même s'il n'aurait pas dû s'appeler American Dream mais plutôt American Nightmare, parce que c'est un album qui est profondément sombre.
Ne serait-ce pas ironique.
Pas du tout. Qui parle de solitude, des mauvais rêves, des fantômes, de la vieillesse et de la mort. Donc de la mort de nous tous et de la mort surtout de ses idoles. Donc Call the Police, he did for all the Leonard and the Lose. C'est s'il y a quelque chose qui me touche énormément chez James Murphy, c'est effectivement, comme vient de le dire Hugo, c'est sa capacité à assumer, voire revendiquer ses amours fous pour les artistes qui l'ont nourri depuis longtemps, sachant qu'il a quand même connu 10-15 ans de galère avant de connaître la gloire. Et puis ses émotions. Cet album, à la fois, je trouve, nous replonge dans ce New York pré-Giuliani, assez crade, assez oppressant, assez anxiogène et très libre, et dans, évidemment, les recoins britanniques dans lesquels il aurait rêvé jouer de la guitare étant plus jeune. Donc tout ça, ces ambivalences, ces contrastes se nourrissent. Ensuite, American Dream, American Nightmare, la pochette, il faut quand même en parler, elle a été très décriée, je n'ai pas trop compris. Bon, esthétiquement, elle n'a peut-être rien de dingue ou d'incroyable, mais c'est une référence évidente à l'Infinie Comédie de David Foster Wallace, à la couverture, la première couverture de la publication américaine en 96, qui est une autre grande référence de James Murphy, ce roman extrêmement sombre, assez futuriste et à la fois nostalgique, et auquel, une fois encore, il rend hommage et dont il a toujours assumé pleinement l'influence en disant, voilà, j'aimais cet homme, il s'est suicidé, ça m'a brisé le cœur, tout comme là, il dit dans cet album, j'aime ces artistes, ils sont morts, ça me brise le cœur, tout me brise le cœur, mais voilà, je continue avec mes synthés, mes Moog, mes Roland, mes beats à n'en plus finir, parce qu'effectivement, il y a des titres où on danse très très fort sur le dance floor.
Christophe Comte.
Ah, moi, j'avais une autre théorie sur la pochette, parce que, évidemment, James Murphy, dans les interviews qu'il a données récemment, dit qu'on a un peu minimisé son travail avec David Bowie, notamment sur Black Star. Quand on regarde cette pochette, on avait Black Star, la pochette voilà, avec l'étoile noire, l'album funéraire de David Bowie. Et là, c'est un album de résurrection, et on a un beau ciel bleu avec un soleil au fond, parce que c'est quand même une résurrection. LCD Sound System devait s'arrêter en 2011, c'était le concert d'adieu. Et là, bon, voilà,
Le vrai Lazare, c'est lui.
Voilà, et il y a ce côté Lazare, parce qu'on sait que s'il l'a fait pour des bonnes raisons, il ne l'a pas fait pour l'argent, évidemment qu'il s'est fait offrir des ponts d'or pour revenir dans les festivals, etc. Mais évidemment, il s'est rendu compte aussi que cette espèce de truc un peu romantique de dire à 41 ans, on ne fait plus de la musique, on ne fait plus du rock, c'est absurde et tout ça, et en même temps, c'est quelqu'un qui vénère Bowie, Lou Reed, tous ces gens qui ont continué jusqu'à 70 ans. Donc forcément, donc là, il a fait ce disque vraiment de manière la plus sincère qu'on puisse imaginer, parce qu'on entend vraiment absolument tout ce qu'il a aimé. Il est imprégné de ça. Moi, j'ai été assez bluffé par l'influence de Bowie via Robert Fripp, via les Talking Heads, tout ça est très lié, Remain in Light, etc., qu'on entend vraiment, on l'entendait déjà sur Sound of Silver, mais on l'entend de manière, alors là pour le coup, c'est des citations littérales quasiment, et il y a ce côté qu'il y avait dans cet album quand même formidable, qui est quand même pour moi un des plus grands disques de l'histoire de la musique, qui est Remain in Light, ce côté bipolaire, c'est-à-dire un côté très dansant avec ses influences africaines, etc., avec l'influence des Nos de Robert Fripp, et puis de l'autre côté un truc très flippant, très anxiogène sur la face B, ce morceau très Joy Division à la fin. Et là, on retrouve exactement ça. Il y a un morceau à la fin qui fait, je sais plus combien de minutes, Black Screen, justement, Black Star, Black Screen. Bon, on voit quand même que tout ça est quand même assez bien pensé, et que James Murphy, qui en plus a donné un petit leurre assez marrant sur la pochette, parce qu'ils sont 8 à l'intérieur, tout le groupe, alors que quand on regarde les crédits, en fait, il a tout fait, et les autres ont fait un maracas par-ci, et vraiment, c'est vraiment son album. Rien ne peut mieux lui ressembler que ce disque.
Et la synthèse de la synthèse en 20 secondes,
juste pour le titre, parce que je crois qu'il n'y a aucune ironie dans le titre, justement, et je crois qu'il le dit, non seulement qu'il semblerait, il a avoué dans le New York Times quand il a rencontré Bowie, que c'est Bowie, alors qu'il avait déjà décidé, il a encouragé à reformer le groupe, donc ça tient à la théorie aussi de Christophe, mais surtout, justement, au moment, à cause de Trump, on est en train de dire que l'American Dream n'existe plus, lui, il dit, ben non, je suis la preuve qu'il existe, moi, je suis l'enfant d'immigrés irlandais, d'enfance pourrie, machin, qui devait ne rien faire dans la vie, j'arrive à être une star, ça prouve que l'American Dream existe encore et que je peux faire un disque comme ça et devenir une star avec.
American Dream, LCD Sound System, sorti ce vendredi, deux concerts à l'Olympia, mais ils sont complets.
Bon, c'est mais on y sera quand même.
13 et 80, vous y serez, parce que vous avez des places, heureux critiques musicaux. Il faudra attendre qu'ils repassent. Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. Et c'est Grégoire Di Fiore qui nous rappelle cette question tout d'abord.
Quel peintre partage l'honneur de l'invention du diorama avec Louis Daguerre?
La réponse était...
Charles-Marie Bouton.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Sans réserve, actuellement au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, donc le Mac Val à Vitry-sur-Seine. Quelle est la question, Grégoire?
Quel artiste, exposé au Mac Val dans le cadre de l'exposition Sans réserve, a également réalisé le film Ni le ciel, ni la terre?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter cette émission, vous abonner au podcast de l'émission. Vous pouvez préparer aussi vos commentaires pour l'émission de demain, poster sur la page Facebook La Dispute FC dès 20h chaque soir. Vous n'attendiez le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Yasmine Youssi, Anaël Pija et Frédéric Bonnet. À notre affiche, un retour sur les rencontres d'Arles. On parlera d'Annie Leibovitz et de Paz Errázuriz. Et nous parlerons aussi de On aime l'art, exposition de la collection Agnès B à la collection Lambert à Avignon.